Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, que nous enseignent les valeurs du sport ? Car les Jeux Olympiques sont une occasion de questionner la place et le rôle donné au sport dans la société et dans l'éducation.
On a une grande cause nationale cette année, c'est le sport. Le sport à l'école, vous savez qu'on a mis les 30 minutes de sport obligatoire pour tout le primaire, on a mis plus de sport au collège, et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport, parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour plein de choses. Et c'est une manière aussi d'avoir des jeux qui resteront dans nos pratiques de chaque jour. Vive les Jeux Olympiques et Paralympiques, et rendez-vous très vite.
Rendez-vous par exemple le 8 mai, puisque la flamme olympique arrive à Marseille ce mercredi soir. En cette année des Jeux en France, nombre de contributions plus passionnantes les unes que les autres ont paru sur les jeunes et le sport, dont celle du magazine de l'École des Parents, l'École des Parents avec qui nous avons préparé ce numéro. Et puis on y viendra en fin d'émission. Les JO, c'est toujours une bonne occasion de se cultiver. Ça aussi, c'est une valeur du sport. Alors, le sport met en jeu de sacrées questions éducatives. La place du corps, la santé, bien évidemment, l'exigence et le dépassement de soi, l'esprit d'équipe et la mesure de la performance individuelle, la discipline et la domination aussi dans ce qui est un monde de sélection et de compétition. Alors la compétition, ça s'interroge, ça fait progresser, mais ça aussi ses limites. Parce que si l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu selon Coubertin, les Jeux Olympiques sont bel et bien une immense compétition. Vous savez, situs, altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort ensemble, ajouté en 2021, cet ensemble. Il parle-t-il aux enfants et aux éducateurs d'aujourd'hui? Quel rapport entre une méga compétition multisponsorisée organisée pour glorifier des vainqueurs sur les écrans du monde entier et cette pratique physique de 30 minutes par jour que nous conseille d'adopter le président et qu'on souhaite évidemment aux enfants et aux ados? Et comment tout ça s'organise? On en parle avec nos invités. Bonsoir Guillaume Ditch.
Bonsoir Louise Touré.
Vous êtes enseignant en STAPS, c'est, je le rappelle, les sciences et techniques des activités physiques et sportives, agrégées d'éducation physique et sportive, auteur notamment des jeunes et le sport penser la société de demain. Ça a apparu en janvier à l'occasion de cette année olympique chez Debec Supérieur. Alors justement, quel est le rapport entre cette pratique quotidienne et les Jeux Olympiques? Moi, ça ne m'a pas paru évident tout de suite.
Alors, la réussite d'un grand événement comme les Jeux Olympiques, c'est d'abord aussi l'impact social que ça peut avoir sur une population. Et là, l'objectif, rappelé par le président Emmanuel Macron, c'est aussi la grande cause nationale. Donc, c'est promouvoir l'activité physique et sportive, alors pour les jeunes, mais finalement pour l'ensemble de la population. Pour autant, en tout cas pour l'instant, aucune étude scientifique montre que c'est une condition suffisante. Donc, il est certain que l'après-Jeux Olympiques, et notamment l'héritage, marquera peut-être, à partir d'indicateurs, cette réussite et le fait que la population s'engage davantage dans une activité sportive.
L'indicateur, ça peut être le nombre de licenciés dans une discipline, par exemple?
Différents indicateurs, alors notamment effectivement l'augmentation du nombre de sportives et de sportifs. Peut-être aussi le fait qu'en France, l'accès à la pratique sportive soit moins marqué par, je dirais, le milieu social d'origine ou encore par le sexe, puisque là aussi, c'est encore assez inégalitaire en France et je pense que ça sera effectivement un critère de réussite.
Qu'on pourra donc mesurer avec certains indicateurs, je l'ai dit, le nombre de licenciés. On verra aussi si on voit plus de gens dans nos infrastructures sportives. Il y a beaucoup à dire sur la question. Vous avez fait une passe, Guillaume Ditch, à Anne-Sophie Omassa. Bonsoir.
Bonsoir, Louis.
Vous êtes directrice du centre Hubertine Auclair qui travaille sur les inégalités ou l'égalité de genre. Le centre a lancé une campagne Mon Genre de sport qui a pour objectif de déconstruire les stéréotypes sexistes, un enjeu d'égalité pour lequel les Jeux Olympiques vous offrent une occasion. Je ne sais pas très bien comment j'ai construit cette phrase, mais enfin, les Jeux Olympiques sont une occasion de parler de ces enjeux pour vous. Est-ce que il vous semble s'accroître ces enjeux
Alors ces enjeux, au-delà de sa cloître, hein, sont de plus en plus présents et sont clairement établis dès la petite enfance et dès les premières pratiques sportives. Notre compagne Mon Sport de genre, elle est clairement au cœur de l'actualité sportive avec ces Jeux Olympiques. Et c'est l'occasion pour nous, en nous adressant à des ados, 14-18 ans, de vouloir promouvoir l'égalité et de déconstruire les stéréotypes effectivement sexistes hein, qui limitent et entravent la pratique du sport, mais également visibiliser les inégalités et les impacts sur leur pratique et sur l'accès, effectivement, oui.
Alors c'est quoi, par exemple ? Est-ce qu'il faut que les filles fassent des sports de garçons, entre guillemets, il n'y a pas de sport de filles et de garçons, mais si on regarde par exemple les licenciés de foot, qui sont plus de 2 millions, c'est énorme, il y a très peu de femmes, moins de 10%. Si on regarde l'équitation, c'est 8 licenciés sont des filles. Donc on est à l'inverse, etc. On sait que beaucoup de sports collectifs comptent plus de garçons que de filles, etc. Mais est-ce qu'il faut pousser les filles à faire absolument réputé masculin.
Bah, il faut déjà déconstruire le stéréotype de dire qu'il y a des sports masculins et des sports féminins. Il faut surtout pousser les enfants à faire le sport qu'ils ont envie de faire, en allant au-delà de préjugés, en allant au-delà d'un héritage un peu culturel, d'une éducation qu'ils ont pu avoir. Il faut les inciter à déconstruire un petit peu ces stéréotypes et leur offrir la possibilité de choisir quel que soit le sport qu'ils ont envie de faire. Donc oui, il y a des sports dits de garçons, des sports dits de filles. C'est un héritage sportif, c'est un héritage culturel. L'idée est justement de déconstruire tout ça pour leur donner le choix et de faire ce qu'ils ont envie et d'assumer, en fait, et de se donner confiance.
Alors, faut voir comment tout ça peut être réalisable parce que il y a l'image de tel ou tel sport. Alors évidemment, avec le football, c'est facile. Le basket aussi, on voit beaucoup plus d'hommes. C'est beaucoup plus médiatisé par les hommes. Même si en football, on a quand même eu des très 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 belles compétitions mondiales féminines avec des championnes, les footballeuses commencent à être un peu connue.
Mais que 3% des filles aujourd'hui font du football quand elles ont moins de 18 ans.
Chez les moins de 18 ans. Mais alors, ça pose aussi la question du rapport à la compétition. Et c'est vraiment un sujet dont je voulais parler dans cette émission. Qu'est-ce qui se joue dans le sport, hors de la compétition? Finalement, si, comme les Jeux Olympiques, le sport qu'on pratique, par exemple, dans les clubs, c'est une compétition, qui ça va entraîner vers ces activités et qui ça va freiner? Cette question, je la trouve extrêmement intéressante. Elle est soulevée dans le hors-série de l'école des parents. Dans cette hors-série, il y a une interview de vous, Jacques Souris, par Anne Bidot. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, l'article d'Anne Bidot s'intitule « L'important, c'est de participer ». Trois petits points, vraiment, point d'interrogation. Je crois que c'est une manière de formuler ce que je venais de dire. Vous êtes professeur émérite à Nantes Université. Vous êtes membre du laboratoire Motricité Éducation Performance. Vous travaillez aujourd'hui avec l'équipe de France de voile en vue des Jeux Olympiques. Vous avez participé à de nombreuses publications sur le sport. Est-ce que c'est important d'offrir du jus de crâne sur toutes ces questions? Est-ce que c'est un truc d'intellectuel aussi, le sport, à lire tout ce qui paraît? Ça me paraît pas du tout être une contradiction, le sport et le fait d'y réfléchir.
Ah ben, c'est pas du tout contradictoire, parce que, bon, déjà, vous dites le sport, c'est un truc d'intellectuel. L'objet sport, en tant que phénomène social, en tant qu'objet d'étude, fait l'objet depuis très longtemps d'études dans pratiquement tous les domaines scientifiques, hein, que de la sociologie du sport, de la psychologie du sport et des activités physiques, et puis évidemment les sciences de la vie appliquées aux activités sportives, aux activités corporelles, donc en fait la physiologie, la biomécanique, etc. Donc en fait, il y a depuis très longtemps une filière de formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives, les STAPS, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, et des enseignements, donc un corpus de connaissances qui a été développé dans ce qu'il est convenu d'appeler les sciences du sport, mais plus largement des activités corporelles et des activités physiques. Hein. Donc c'est déjà un truc d'intellectuel pour ceux qui s'intéressent à la recherche sur le sport.
Est-ce que c'est très français?
Pas du tout.
Non, c'est dans le monde entier.
Oui, la recherche sur les activités sportives et sur les activités physiques, sur les pratiques corporelles d'une manière plus générale, c'est un un champ de recherche international avec de nombreuses revues spécialisées, des revues pluridisciplinaires ou des revues plus spécialisées dans un domaine scientifique. Mais non, c'est international.
Non, c'est une question très, très sincère. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui gagne du terrain dans les cours d'EPS, donc au collège et au lycée, c'est la mesure de la performance, l'idée de s'auto-évaluer aussi. La discipline se transforme par cette scientifisation. Je ne sais pas si ce mot vous convient, Guillaume Ditch.
Oui, il y a aussi une forme d'intellectualisation, puisque dans votre remarque, qui est intéressante dans le sens où il y a certes effectivement les études à l'international, comme l'a rappelé Jacques Sory. Pour autant, il y a quand même une tradition française, effectivement, sur la place du corps à l'école, qui amène une forme de hiérarchie entre l'intellect et l'engagement corporel. Il est vrai que en EPS, la place du corps, elle est centrale et elle s'inscrit finalement dans les évolutions de la société. Là, vous parlez du rapport à la performance. Il est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, dans ce rapport à la performance, on est clairement sur le dépassement, mais par rapport à soi-même, en référence effectivement à une application pour mesurer effectivement sa performance, mais aussi se comparer à l'autre. Et là, effectivement, ça nécessite quand même une question autour de l'éducation, mais aussi peut-être une réflexion critique pour ne pas répondre finalement aux normes dominantes, aux normes corporelles et parfois le diktat finalement du corps un peu parfait, idéalisé.
Parce que aujourd'hui, on a tous des outils pour mesurer nos performances si on décide de performer.
Mais non, et là, ce qui est intéressant, c'est que alors les jeunes, dans les enquêtes un peu sociologiques, on est jeune autour de 15-29 ans, mais c'est un phénomène qui se développe dans ce rapport à la technologie. On est effectivement sur plus d'un tiers des pratiquants amateurs hein, qui utilisent effectivement un objet connecté, un téléphone, une application, un tuto ou autre. Et de là, ça montre une chose, effectivement, c'est que nécessairement, il y a ce rapport à la performance qui, pour certains, peut être, et ça a été démontré, être un outil de motivation, mais pour d'autres, ça amène aussi des phénomènes d'abandon, d'autant plus lorsque vous n'êtes pas acculturé à l'activité physique et sportive. Donc ça demande peut-être, on parlait des inégalités filles-garçons, ça demande, au-delà d'une réflexion sur des disciplines sportives, l'accompagnement alors d'un entraîneur, d'un éducateur ou d'un enseignant à l'école.
Mais à quel âge on passerait, si on n'est pas d'une famille particulièrement sportive, de l'activité physique dont on recommande qu'elle soit plus importante à l'école et dans la vie de tous les jours des enfants, à quelque chose de plus mesurable? À quel moment, pour les enfants, ça prend du sens, les enfants ou les ados, du coup?
C'est pour cela qu'il est très important de bien différencier le sport qui, traditionnellement en France, s'inscrit dans la compétition, et je dis bien traditionnellement, puisqu'aujourd'hui, on a parlé avant d'impact social, on va peut-être, dans la suite de l'émission, discuter d'autres manières de pratiquer un sport, de l'activité physique et sportive. L'activité, c'est-à-dire la mise en mouvement du corps, et notamment aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup d'enjeux de santé, les recommandations de l'OMS. Pour vous répondre, en fonction de l'âge, il y a effectivement, peut-être en lien aussi justement à différents stades, il y a cette idée de développer d'abord la motricité chez l'enfant, alors à travers des sports mais aussi des jeux, et pas nécessairement chercher une spécialisation, puisque l'enfant il est dans la découverte, il est dans l'apprentissage de son corps et de la coordination, de marcher, courir, sauter, lancer, différents savoirs qui sont assez fondamentaux à l'école. Et ensuite, l'idée notamment à partir du collège, donc dans cette période de l'adolescence, c'est s'ouvrir sur différentes disciplines sportives. Et encore une fois, aujourd'hui, le jeune, il est sur de la multipratique. Donc un jeune, il va pratiquer éventuellement un sport collectif, il va s'inscrire dans une salle de remise en forme, alors plutôt au lycée, il va éventuellement pratiquer dans un espace, un skatepark ou autre. Donc finalement il se cherche, mais c'est normal, c'est une période de construction identitaire. Éventuellement, dans un second temps, pouvoir peut-être, s'il le souhaite, je dis bien s'il le souhaite, se spécialiser et pourquoi pas performer un peu dans un sport plus tard.
Le jeune qui fait du sport, parce qu'on sait aussi qu'à l'adolescence, beaucoup d'enfants, alors, j'aime bien les appeler les enfants, les ados ils détestent, décrochent du sport, et particulièrement les filles, Anne-Sophie Omassa.
Oui, tout à fait, hein, on sait à travers les études hein, et les chiffres qu'on peut avoir qu'aujourd'hui, c'est un peu le seuil des 12 ans hein, au niveau des filles, on a un décrochage de la pratique sportive qui est progressive, mais on a que 16% des filles qui pratiquent le sport ou une activité sportive à 15-17 ans. Alors ça s'explique par plein de choses, hein, effectivement, ce décrochage. Je pense que proposer des modalités d'enseignement, des modules pédagogiques avec une approche un peu différente du sport ou de l'exercice du sport est une solution fondamentale, hein, pour faire évoluer les pratiques et remettre l'accessibilité des filles au cœur de la pratique sportive à l'école. Mais ça s'explique derrière, effectivement, par l'arrivée à l'âge de la puberté, l'arrivée des choses qui peuvent être le changement du corps, assumer son corps, la féminisation, les règles sont des problèmes aussi à gérer au quotidien pour les filles. On a aussi une éducation différenciée depuis très longtemps,
on
avec
peut être moins
150
poussé.
Ans d'histoire du sport là-dessus. On a aussi beaucoup de témoins, et notamment des enseignants, hein, d'éducateurs qui parlent aussi de violences sexistes et sexuelles au cœur de cette pratique du sport.
On va y revenir. Mais Jacques Souris, qu'est-ce qui explique pour vous que des adolescents et des adolescentes donc arrêtent le sport? Vous qui avez été professeur de PS dans le secondaire et qui avez suivi les pratiques de vos élèves.
Oui, alors bon, j'ai été assez peu d'années professeur dans le secondaire, je précise. Alors, ce qui explique l'abandon de la pratique, enfin pour moi, ça peut être lié à divers facteurs. J'ai pas d'études particulières en tête, hein, mais en tout cas le passage, si vous voulez, d'une pratique où se noue tout un réseau de relations avec des amis, où c'est une pratique plaisir, à une pratique un petit peu plus instituée, un petit peu plus rigoureuse, un petit peu plus systématique, etc. C'est jamais un passage très très simple à un moment à l'adolescence où les adolescents peuvent avoir d'autres centres d'intérêt, de préoccupation et aussi connaissent beaucoup d'autres sollicitations, quoi.
Alors certains continuent même toute leur vie, c'est le cas d'Anouk Garnier, elle est double championne du monde de course à obstacles, ambassadrice du programme des volontaires de Paris 2024, donc pour les Jeux Olympiques. Elle a participé au campus UNESCO XL, les valeurs de l'olympisme, le 25 avril dernier. Il y avait 700 jeunes à l'UNESCO pour discuter avec des athlètes. Moi, j'y suis passée ce jour-là. J'ai tendu mon micro à Anouk Garnier qui va, je le signale, bien participer en quelque sorte aux Jeux Olympiques.
Oui, je vais porter la flamme à Marseille le 9 mai. Ben, on se sent excité, on va dire, parce que c'est quand même un honneur pour un athlète de porter la flamme olympique. Et c'est tout un dispositif et tout ça, il y aura beaucoup de gens sur le côté, enfin ça va être un événement extraordinaire à vivre. Alors après, la compétition, je dirais pas que c'est une valeur qui peut faire peur à certains jeunes, je pense. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va viser toujours plus haut, on va viser à développer son potentiel, à être toujours meilleur, viser l'excellence. Ça veut dire aussi ça pour moi, le côté compétition. Et je pense que c'est important aussi pour se développer et pour faire le parallèle avec la vie et le quotidien. Et quand je vois que je peux inspirer des jeunes ou même des adultes à faire un peu plus de sport, bah ça me fait quand même plaisir parce qu'on se sent utile. Après, les jeunes, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui font du sport. Ils sont de plus en plus sédentaires. Il y a de plus en plus de problèmes de santé. Donc, pour moi, c'est une mission importante parce que je suis aussi coach sportif. Donc, de leur donner des astuces, de les inspirer à bouger de manière simple sans vouloir faire forcément du sport de haut niveau, je pense que c'est très important aujourd'hui, oui.
La première valeur du sport, ce serait de se mettre en mouvement, en fait.
Exactement, ce serait juste de bouger un peu, quoi, déjà. Première valeur, et ça paraît simple, mais il y a plein de jeunes qui trouvent ça compliqué. Donc l'idée, c'est un peu de leur donner des astuces pour faciliter ce mouvement, quoi.
Est-ce que c'est pas très, très éloigné de l'olympisme dont on parle cette année et puis de la compétition de haut niveau telle que vous l'avez pratiquée?
Bah, c'est juste deux niveaux différents, j'ai envie de dire. Déjà, de marcher, faire du vélo, bah, il y a des sports olympiques, hein. Il y a la marche rapide, il y a le cyclisme. Après, on le pratique à un niveau différent, mais c'est déjà une première étape, je trouve, de prendre conscience qu'on peut être moins assis dans sa voiture, moins assis dans les transports et plus se déplacer par soi-même, qui est un peu la base du corps humain aussi, quand même. On a été fait pour ça. Donc, c'est un début, on va dire. C'est mon bonheur de faire du sport. J'arrête l'entraînement 2-3 semaines dans l'année pour quand même laisser le corps un peu au repos. Mais bouger, pour moi, c'est hyper important, en fait. Si je ne bouge pas, je suis pas heureuse, en fait. Je sens qu'il y a une mauvaise énergie, je réagis mal à certaines choses. Donc pour moi, ça fait partie de mon équilibre. Et je pense que ça doit pas être que pour moi, finalement. Parce que le sport, on le sait, hein, ça fait sécréter des hormones de bien-être, etc. Donc on sait que ça rend heureux, le sport. Et ça rend un peu addictif, du coup, à ce petit bonheur.
Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à faire du sport? On aurait peut-être pu commencer par là, mais comment le sport est venu à vous et comment vous êtes venu au sport?
Alors, j'ai pas eu trop le choix. Non, mais d'ailleurs, je remercie ma famille aujourd'hui. En fait, j'ai grandi dans une famille qui faisait de la gym. Donc, mon grand-père était président d'un club de gymnastique, donc une association sportive. Et en fait, ma grand-mère me gardait souvent le soir après l'école. Et elle entraînait les filles à la gym. Donc, elle m'emmenait à la gym. Et voilà, en fait, j'ai pas eu le choix. Je m'amusais dans la salle de gym et tout de suite, j'ai été mise dedans. Alors, j'en suis très contente aujourd'hui, hein, parce que j'en ai fait mon métier, ma passion, etc. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu à réfléchir pour me mettre à un sport. C'est qu'on m'a mis dedans tout de suite et que, du coup, je suis restée dedans, quoi.
Mais vous avez évolué. Vous n'êtes pas restée dans cette pratique non plus. Donc, comment ça se passe, ça?
Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que grâce à la gym, j'étais bonne partout. Donc ça m'a amené des qualités de base juste excellentes. J'ai fait un peu de boxe, j'ai fait du basket. Enfin voilà, j'ai testé plein de sports différents. Et après, j'étais en fac de sport. Bon, alors, on en fait beaucoup. Et on teste plein de sports. J'ai trouvé ça très intéressant de tester différents sports. Mais en même temps, on a une partie étude du sport, la science qu'il y a derrière le sport. Pour s'entraîner, avoir des résultats, c'est de la science. C'est pas je fais 3 répétitions, je fais 3 squats et c'est cool. Non, en fait, il y a toute une science derrière et je trouve ça passionnant. En fait, faut savoir comment le corps humain fonctionne et comment on va faire réagir le corps humain avec l'entraînement pour créer les adaptations qu'on veut. Donc c'est tout un truc et moi ça me passionne. Une des valeurs aussi, c'est la remise en question permanente, en fait. C'est d'essayer des entraînements, voir si ça nous fait performer, ça nous fait progresser. Si ça marche pas, ou j'arrive en compétition, ça réagit pas comme je veux, là, je me remets en question, qu'est-ce que je vais faire, ok? Et donc, effectivement, faut toujours apprendre des nouvelles méthodes, toujours apprendre des nouvelles choses pour avancer et performer.
Anouk Garnier, le corps et l'esprit en mouvement, on l'a entendu. Ce qu'on a compris aussi en écoutant cette sportive, c'est que les médailles, être championne, ça se mérite, mais aussi ça s'hérite. Guillaume Ditch.
Complètement. Elle a bien précisé, effectivement, toutes les enquêtes sociologiques montrent qu'encore aujourd'hui, la transmission de ce goût pour le sport, le plaisir à ou éventuellement l'accès à la compétition, il se fait principalement par les parents et plus encore par le père. Donc là, on voit bien qu'on est face à une athlète qui a été très vite immergée effectivement dans l'univers de la gymnastique. Il y a un terme important qu'elle a précisé, c'est cette idée de plaisir. Avant la compétition, elle a été finalement dans un environnement où elle avait plaisir à pratiquer la gymnastique et progressivement, elle a atteint ce très haut niveau de performance.
Donc, il y a une culture familiale du sport, mais ce qui est très intéressant, vous dites, ça passe plus par les pères que
ça passe davantage par le père par rapport, et ce côté corps-esprit intéressant, puisque la culture littéraire passe encore davantage aujourd'hui par la mère. Donc on est encore effectivement sur un schéma familial très stéréotypé
ou académique,
très académique effectivement.
Le niveau de réussite des jeunes est très corrélé au niveau de diplôme de leur mère. C'est intéressant aussi cette répétition. C'est pas un stéréotype, c'est une réalité pour le coup. Anne-Sophie Omassa, du rôle des mères. Enfin, on va ajouter aussi à leur charge mentale. Qu'est-ce que ça montrerait? Parce que finalement, c'est bien que des pères s'investissent dans l'éducation de leurs enfants.
Alors c'est bien, mais c'est même indispensable. Hein, l'égalité voilà. Passe par là, hein, puisque la notion de genre, on est vraiment dans cette approche sociologique du rôle du féminin, du rôle du masculin dans la société, dans la famille. Donc le rôle du père, le rôle de la mère, effectivement, la mère. Que ça soit en sport, hein, on le voit aussi à travers ce biais, où la pratique est davantage en intérieur, une pratique douce. Les garçons et les hommes, ce sera davantage des sports collectifs, des sports d'extérieur, l'appropriation de l'espace public. On a toutes ces notions-là, en fait, qui replacent la femme et l'homme dans l'éducation des enfants et dans la transmission. Et le père, forcément, a un héritage, la maman aussi. Et le sport est, de toute façon, le laboratoire de la société. Hein, donc, il est tout à fait révélateur du reste.
Et on peut quand même saluer toutes les mères qui prennent de leur temps le mercredi après-midi, beaucoup plus de mères que de pères, pour accompagner les enfants à leurs activités sportives, alors aussi des activités autres que sportives. Jacques Sauris, sur cette question des parents, parce que derrière les champions, derrière les performances sportives et derrière la pratique tout court, il y a souvent des parents mobilisés. C'est quand même un facteur très important pour la pratique aujourd'hui du sport. Jacques Sauris.
Oui, oui. Alors évidemment, les études qui ont étudié justement l'impact de l'environnement social. Alors les parents, évidemment, mais plus oui, globalement, l'environnement social, la fratrie, des enfants peut jouer un rôle très facilitant et aussi faciliter l'organisation et le travail de la diade, entraîneurs, athlètes, parents. Marc Lévesque l'évoque d'ailleurs dans le numéro de l'école des parents. C'est donc évident. Alors, ce qui apparaît dans le témoignage d'Anouk Garnier aussi, c'est des choses qui m'apparaissent très très importantes. Le fait de vivre précocement, et alors l'identification à la pratique des parents peut être un des vecteurs, hein, mais de vivre précocement des expériences très valorisantes, des expériences gratifiantes, des expériences plaisantes qui sont porteuses d'émotions dans des pratiques multiples. Comme elle l'a évoqué, ça m'apparaît très important. Et aussi, très vite, l'engagement dans ce que certains psychologues du sport appellent une pratique délibérée, c'est-à-dire, elle l'a très bien dit, faire du sport, c'est pas simplement répéter des squats, c'est pas simplement répéter des exercices, c'est pas simplement répéter toujours les mêmes gestes à l'entraînement, c'est en permanence réfléchir à comment optimiser ces techniques, comment obtenir de meilleurs résultats. Ça passe par de la connaissance, ça passe par de la recherche, ça passe par de la réflexivité. Et donc, en fait, cet engagement dans cette dynamique finalement qui engendre aussi du plaisir, parce qu'on réussit mieux, parce qu'on comprend mieux ce qui se passe, parce que on arrive un petit peu mieux à maîtriser ce que l'on fait, c'est un engagement dans une dynamique qui est celle qui peut alors là se perpétuer depuis l'enfance jusqu'au plus haut niveau de ce point de vue là.
Dynamique du corps et de l'esprit, bien sûr, mais dynamique qui peut tout à fait s'interrompre au moment où on ne correspond plus aux critères attendus par son club pour être un bon compétiteur ou une bonne compétitrice. On le sait, il y a des paliers d'âge, c'est pas les mêmes dans tous les sports, mais finalement, si on veut faire du football et qu'on n'est pas très bon, on va pas être gardé dans la bonne équipe. Ça va être pareil dans d'autres sports et donc ça peut aussi être une école de la déception. On ne gagne pas tout le temps quand on joue, Guillaume Ditsch.
Complètement. Après, sur cette question des valeurs ou d'école de la vie, je pense que c'est important de rappeler que là, on est quand même de l'ordre du mythe. Historiquement, les valeurs qui seraient finalement un peu intrinsèques autour du sport, l'idée de dépassement de soi, on est quand même sur un mythe, puisque le sport, finalement, c'est, comme vous l'avez dit précédemment, c'est le reflet de notre société. Et on est dans une société de la performance, de la compétition et parfois, effectivement, de la réussite, mais aussi de l'échec. Et de ce point de vue-là, ça pose effectivement une question aussi du modèle de société que l'on souhaite plus tard, un modèle d'éducation aussi. Alors certes, par
mais
le
ça
sport,
rejoint la question que je pose en fait. Est-ce qu'on pourrait faire du sport à 12 ans, loisir, en étant dans un club, encadré par des adultes
et
un peu plus?
C'est là où c'est intéressant. Les changements de société amènent de fait aussi une évolution du modèle sportif qui reste encore en France très traditionnel, fondé effectivement sur cette démocratisation, éventuellement une sélection, ce modèle compétitif. Mais on a quand même pas mal d'exemples de fédérations. On pourrait citer le handball, le badminton notamment, qui sont des fédérations qui aujourd'hui se posent la question, effectivement, à côté de ce modèle compétitif performatif, d'un modèle autour de la mixité, l'inclusion, mais aussi peut-être des enjeux importants de durabilité, qui amènent de fait aussi une réflexion pour, disons-le aussi, fidéliser, capter un nouveau public qui, je le répète, hein, notamment les jeunes, ne sont pas animés par la compétition prioritairement. Là, on est sur d'autres générations, peut-être la nôtre, les anciennes également, qui étaient plutôt effectivement sur ce modèle d'une pratique sportive dans une fédération, donc ce caractère très institutionnalisé. Et là, on est sur, disons-le, un changement de paradigme.
Mais ça va intéresser des entraîneurs, Jacques Sory, de s'occuper d'enfants et d'ados qui n'ont pas d'objectif de grande performance, mais qui sont plus dans une idée du loisir, tout simplement. Est-ce que c'est encore du sport pour vous?
Oui, bien sûr. Bien sûr, ça reste du sport. Le sport n'a pas comme seule finalité ou seule destination d'arriver au plus haut niveau. On sait très bien que tout le monde ne pourrait pas arriver au plus haut niveau. Et que, de plus, beaucoup de pratiquants n'aspirent pas, finalement, veulent faire du sport pour développer des compétences, mais tout en restant à un niveau de compétition, à un niveau d'engagement, à un niveau de sollicitation dans leur vie personnelle qui est relativement limité et qui aussi reste festif, reste amical, maintient tout un ensemble de conditions sociales qui sont gratifiantes pour eux. Donc ça, je pense que c'est toujours du sport, évidemment, et je pense que ça intéresse aussi des entraîneurs, alors qu'ils sont pas des entraîneurs des équipes olympiques, évidemment, hein, mais des entraîneurs, notamment dans les fédérations affinitaires. Je pense à l'UFOLEP, je pense à d'autres fédérations qui peuvent développer des modèles de sport qui sont compétitif au sens où on organise quand même des compétitions, hein, ou des tournois de badminton, de tennis.
Donc dans l'éducation populaire, oui.
Dans l'éducation populaire, tout en restant dans un cadre qui est un cadre de sport, on va dire, convivial, hein, et qui peut rester, qui peut tout à fait conserver ses valeurs de bien-être, mais enfin, je pense que ces modèles sportifs sont très très intéressants dans le contexte actuel, notamment où peut-être que le modèle, en tout cas dans la médiatisation du sport, le modèle compétitif de très haute performance est un modèle qui ne permet pas une identification très très forte des jeunes, des enfants et puis même de tous les pratiquants à ces pratiques-là. Je crois qu'il y a une rupture très très importante entre le sport de Monsieur Tout le Monde, le sport loisir, le sport pour se faire plaisir, le sport pour s'entretenir, le sport pour maintenir une certaine forme de plaisir de pratiquer. Et puis la pratique de compétition de très haute performance. La préparation des Jeux Olympiques, ça exige 250 jours à 300 jours d'entraînement par an. C'est absolument une pratique inaccessible au commun des mortels, si j'ose dire.
Et oui, et c'est aussi parce que c'est pas le commun des mortels qui qu'on va voir pratiquer, enfin plus compétiter, je sais pas si c'est vraiment un verbe, aux Jeux Olympiques qu'on a envie de regarder, puisque ça, c'est exceptionnel. Mais vous avez prononcé un mot extrêmement intéressant, Jacques Sory, c'est celui de convivialité. Et ça interroge l'époque, parce que ce qu'on reproche aux JO dans les critiques qui sont adressées à la compétition telle qu'elle va se dérouler à Paris, c'est son manque de convivialité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir de billets, c'est que ce sera très fermé et très sécurisé. Donc c'était intéressant de rebondir sur ce terme. Et il y a deux personnes dans le studio qui veulent rebondir sur vos propos. On commence par vous, Guillaume Ditch.
Oui, il a très bien dit Jacques Sory. Je pense qu'il ne faut pas confondre ce modèle traditionnel, le sport, la performance qui serait la finalité. Là, il est vrai que ça concerne tout de même très peu de sportifs, Ça peut être un projet, éventuellement un double projet entre le club et l'école. Mais aujourd'hui, depuis 20 ans, on parlait d'études. Aujourd'hui, on parle vraiment de cette idée d'impact social. Se dire que le sport, ce n'est qu'un moyen, c'est un outil pour atteindre les objectifs, et c'est dans ce cadre qu'un grand événement comme les Jeux Olympiques, mais au-delà des médailles...
Ah, mais c'est là où je fais plus le lien, moi.
Oui, c'est au-delà du grand événement qui, finalement, est plutôt un temps où on va être dans un rôle de spectateur, qu'on ait un biais ou non, hein, pour ce grand événement. C'est davantage cette idée de se servir, effectivement, d'une dynamique, d'une grande cause nationale, comme la promotion de l'activité physique et sportive, pour s'inscrire pleinement dans les enjeux actuellement de la société. Donc se dire peut-être qu'aujourd'hui, quand je propose effectivement un sport collectif à l'école ou dans un club, peut-être qu'une forme de pratique en 4 contre 4 avec des règles adaptées peut permettre davantage de pratiquer ensemble en mixité, filles et garçons, peut-être aussi de manière intergénérationnelle. Peut-être aussi dans l'idée, justement, d'avoir un temps davantage autour de la convivialité, la coopération, puisque dans les motivations des jeunes dans le sport et l'ensemble des générations, on parle souvent de la santé ou du plaisir, mais le troisième facteur, le troisième élément, c'est la convivialité. Mais il est vrai que, peut-être pour finir, il y a une forme de paradoxe, puisque on est tout autant dans une génération, une société très individualiste, peut-être hyper connecté, on parlait avant de la technologie, mais pour autant qu'il y a un besoin de se relier, alors parfois par un outil numérique, mais aussi par le sport. Et le sport, ça reste tout de même, nos associations, alors l'éducation populaire, mais les clubs, ça reste un lieu de socialisation. Et là, de fait, si on parle vraiment peut-être de perspectives de société, j'ai envie de dire que nécessairement, cette société qui évolue positivement, en tout cas sur cette question de la convivialité du collectif, elle pousse. En fait, elle pousse les clubs à changer de modèle. Et ça, il me semble que c'est une perspective intéressante. Il y a un grand événement comme les Jeux Olympiques en France. En tout cas, peut-être mettre davantage la lumière sur des initiatives qu'on pense peut-être davantage locales ou localisées, alors que ça existe depuis 20 ans.
Et donc les clubs seraient en train d'évoluer. On va rester en observation sur ce sujet. Et ce qu'on note aussi aujourd'hui, ce sont des tensions autour du sport amateur. En témoigne un long reportage, c'est l'émission Interception sur France Inter du 17 mars, qui était donc consacré aux violences dans le sport amateur, qui touche évidemment les jeunes et les parents.
L'inquiétude dépasse largement le monde du football. Avec deux clubs de rugby exclus du championnat de Régional 1 en Occitanie au mois d'octobre, après une bagarre générale, des coups, des barres de fer, les basketteurs, eux, n'oublient pas l'interruption de match de juin 2022 avec une mère de famille qui traverse un terrain pour aller s'en prendre à ceux qui venaient de sanctionner la cinquième faute de sa fille. C'est l'ensemble du sport amateur qui est aujourd'hui concerné.
L'ensemble du sport amateur avec des réponses. On l'entend dans le reportage. Vous pouvez évidemment le podcaster, tout comme être et savoir, chers auditeurs, que le sport soit aussi un terrain de violence. Ça éloigne une partie du public, évidemment, Anne-Sophie Omassa.
Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, je voulais juste revenir deux secondes sur la question d'avant et les échanges. J'aurais pas mieux formulé, mais le principe du sport santé, aussi la pratique sportive avec cette option de santé et du bien-être, c'est indispensable. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on travaille. Et l'accessibilité du sport, c'est aussi pour des raisons de santé. Le vivre ensemble, bien évidemment, fondamental. La valeur du vivre ensemble, l'intégration, la lutte contre les discriminations, le handicap, l'égalité, tous ces sujets-là. Et effectivement, comme la violence, on en arrive forcément à la violence, puisque le socle même de la violence, l'explication, la violence, finalement, c'est la cause et la conséquence des inégalités. Donc, c'est un enjeu qui est complètement fondamental, que ça soit dans le sport, comme ailleurs, comme dans l'ensemble de la société. On en arrive forcément à des situations de violence dès l'instant où on met en avant, où on ne lutte pas contre les discriminations ou contre les inégalités.
Et où on met en avant la compétition, il y a dans le sport de nombreuses... de nombreuses histoires de violences sexuelles. Des fédérations ont été touchées. On se souvient d'affaires dans le tennis en particulier. Alors, comme c'est un sport individuel, en plus ça peut isoler des joueuses. Isabelle de Mongeau a témoigné, ce n'est pas la seule. Il y a eu aussi des affaires dans l'équitation. En fait, on ne pourrait pas toutes les citer parce qu'évidemment, tous les milieux sont touchés. Mais là, il y a des adultes qui exercent des dominations et une forte influence, qui est aussi une influence psychologique, sur des enfants. Comment est-ce que ça peut ne pas nuire à la pratique du sport, en particulier pour les filles, Anne-Sophie Omassa? Je vais faire tourner la question.
Alors, le sport, la question des violences est quelque chose d'assez compliqué. On a effectivement une femme sur 10 qui est victime de violences conjugales. Dans le sport, on a des chiffres assez alarmants sur des pratiques de violences sexistes et sexuelles. Au-delà de la pratique du sport, on met le doigt là sur ce que c'est que le cycle de violence, de l'emprise, et le sport, comme ce qu'on dit depuis le début de l'émission, illustre ce qui peut se passer ailleurs au sein de la société. Donc le sport, la violence n'empêche pas le sport, n'empêche pas la pratique sportive, mais on doit lutter effectivement contre la violence et la discrimination. Et le sport est une plateforme assez indiscutable, très collaborative, collective, qui passe par toutes les étapes de la vie d'un enfant. Et on doit utiliser le sport pour lutter contre les inégalités, oui, et les violences.
Guillaume Ditch, comment peut répondre le monde du sport et les clubs à cette question de la violence, y compris la violence sexuelle, alors qui s'exerce sur des filles, mais aussi des petits garçons.
Oui, alors je pense que
le corps est en jeu.
C'est important d'y croire. C'est un sujet très, très complexe qui ne touche pas que le sport. On a aussi une génération autour de MeToo avec une libération de la parole, et ça, c'est effectivement très positif. Récemment, on parlait aussi du cinéma. Maintenant, je pense qu'autour du sport, il y a vraiment cette idée que le sport, il n'est pas vecteur de valeurs ou porteuse de valeurs positives. Il faut accepter aussi que le sport, à l'image de notre société, peut certes être émancipateur. Je pense qu'on en a parlé sur les différentes valeurs d'égalité et de mixité, mais il peut être aussi aliénant. Dans le sens où on peut y voir certaines dérives, on parle très souvent plutôt de dopage ou de triche, mais effectivement, ces violences sexistes et sexuelles qui s'exercent dans le sport interrogent, je pense, alors différents leviers. Effectivement, déjà les espaces sportifs, comment dès l'enfance se crée ce qu'on peut appeler en sociologie le sexisme ordinaire, finalement. On part de simples, peut-être petites phrases, des mots, pire des insultes, donc finalement une violence verbale qui, de fait après, peut se transformer en violence physique, éventuellement une violence psychologique lorsqu'on parle d'emprise entre l'entraîneur et l'entraîné, l'athlète. Donc déjà, cette réflexion autour des espaces, et ensuite, deux autres leviers, selon les différentes études, il y a nécessairement l'accompagnement à l'usage. On a aujourd'hui, alors à Paris, mais dans différentes villes aussi, un accompagnement d'associations qui permettent à des filles, mais aussi des femmes, d'être sécurisées lorsqu'elles se déplacent sur une installation sportive, puisque début janvier, on a aussi eu un rapport sur l'état du sexisme en France, le Haut Comité à l'égalité, qui a rappelé effectivement que ce sentiment d'insécurité pour accéder alors au sport ou finalement à un loisir, c'est aussi un facteur qui freine justement le développement du sport. Et peut-être troisième élément, nécessairement, c'est la question de la formation. On parlait des éducateurs. Au-delà d'une sensibilisation, il y a l'idée de former pas l'égalité, mais la culture de l'égalité. Donc aujourd'hui, moi qui suis enseignant en STAPS comme Jacques Sauri, nous qui formons finalement les futurs éducateurs sportifs dans l'entraînement, l'enseignement, l'activité adaptée santé, c'est clairement aujourd'hui des contenus intégrés dans nos formations pour que demain, évidemment, ce genre de violence ne se reproduise plus. Et là aussi, il y a évidemment un investissement et des moyens conséquents à mettre en œuvre pour qu'on puisse éradiquer cette problématique dans le sport.
Oui, et que la parole circule et soit surtout écoutée par les fédérations, puisque c'est vraiment ce qui compte, c'est d'avoir une écoute et une attention quand des questions de violence émergent.
Vous mettez le doigt là sur effectivement le recueil de la parole, qui est un des enjeux majeurs de la prise en charge des violences, le recueil de la parole, que ça soit d'un athlète, que ça soit d'un jeune. On est là
dans
vraiment
le monde éducatif,
dans le monde éducatif, dans le monde du sport, et on est sur une étape indiscutable et non négociable de la prise en compte des violences.
Donc c'est des valeurs qui doivent pénétrer le monde du sport un peu plus, encore plus, pour le rendre peut-être plus sécur pour tous et toutes. Mais une autre question se pose aujourd'hui, c'est celle des pratiques qui sont choisies. Et on était très étonnés avec Avril Ventura de regarder les chiffres des sports de combat qui sont en constante augmentation. Alors bien sûr, dans le sport de combat, enfin je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais il y a le judo, c'est presque 500 000 licenciés, c'est un énorme sport. Mais alors on voit la boxe qui monte chaque année énormément. Maintenant, c'est le MMA qui rencontre plus d'adhésions. Alors, c'est pas encore des énormes chiffres, on n'est pas aux 2 millions d'adhérents au club de foot, mais tout de même, un frémissement de ce côté-là. Et puis, tous ces jeunes qui vont à la salle se faire des biceps, des abdos. Je sais pas si on peut parler de valeur du sport, mais il y a quelque chose qui se joue autour de la force. Jacques Sauri, comment vous interprétez cette évolution ?
Oh, je suis pas du tout.
Est-ce que vous,
pas,
ça vous interpelle?
Je suis pas du tout spécialiste de l'évolution de ces pratiques. Oui, ça m'interpelle. Alors, pour revenir sur les valeurs du sport, j'adhère complètement à ce qui a été dit. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'essence du sport. Hein, il ne faut pas essentialiser le sport comme si intrinsèquement il était porteur de valeurs qui seraient positives, enfin qui seraient.
Mais non, c'est l'essence des Jeux Olympiques que de parler des valeurs du sport, et c'est bien pour ça que j'ai tourné l'émission autour de ce thème, même si on sait qu'il n'y a pas tant de vraies valeurs du sport que ça, parce que dans le sport, il y a des inégalités, il y a de la triche, il se passe plein de choses qui se passent aussi ailleurs dans la société. Et c'est ce paradoxe, c'est qu'on va nous parler quand même des valeurs de l'olympisme pendant des semaines, hein, parce que ça va aller au-delà de la durée des Jeux.
Oui, mais par contre, ces valeurs, enfin, pour moi, il n'y a que des pratiques humaines qui sont socialement, historiquement, culturellement situées, et donc qui sont, elles, ces pratiques qui incarnent, en fait, un certain nombre de valeurs. Et ce que je trouve important à dire, c'est que, en fait, en fonction des fédérations sportives, des clubs, des groupements sportifs, des communautés de sportifs, on a finalement se sont sédimentées des cultures sportives différentes et qui érigent par exemple des types de relations entre les entraîneurs et les athlètes qui peuvent être différentes du point de vue de par exemple du mode d'imposition des conditions d'entraînement, du point de vue des modes du point de vue de l'autorité exercée par l'entraîneur, qui aussi suppose des conditions sociales un peu différentes. Hein. Les jeunes gymnastes, quand elles commencent leur cursus de formation, elles ont 6 ans, 8 ans, etc. Et puis elles cheminent. Et puis donc en fait c'est des enfants, c'est des jeunes, c'est les athlètes avec lesquels je travaille dans l'équipe de France de voile, c'est des personnes qui ont pour certaines 35 ans. Donc en fait on n'est plus du tout sur les mêmes et c'est des sports qu'on appelle à maturité plutôt tardive, c'est-à-dire qu'on accède au niveau quand on est adulte déjà avancé. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut considérer aussi d'une manière assez particulière chaque sport, chaque tradition sportive, on le voit dans de nombreux domaines. Hein. Par exemple, la place que peut prendre un psychologue dans les équipes sportives ou la façon dont on accepte un psychologue dans des fédérations sportives, dans des équipes sportives, peut être très très différent en fonction des fédérations, en fonction des sports. Hein. Donc en fait, tout ça, ça fait système. Hein. Et je trouve que la question des valeurs qui sont véhiculées, notamment autour de l'écoute de la parole des athlètes, mais moi je crois beaucoup à de l'égalité, etc., ce dont on a parlé, je crois beaucoup à la valeur de respect de l'autonomie des athlètes, c'est-à-dire qu'il faut leur donner la possibilité de faire des choix à chaque instant, de discuter, de négocier ces choix, de ne pas être en permanence sous l'emprise des entraîneurs ou de plans d'entraînement qui seraient déterminés par des experts. Enfin, donc en fait tout ça ça me paraît très très important. Et les valeurs qui sont véhiculées par ces communautés sportives, elles tiennent à la aux dynamiques sociales qui sont dans.
Tellement intéressant. Moi, j'en étais, en préparant l'émission, à me dire qu'il fallait que je propose une émission hebdomadaire sur le sport, tant il y a de choses à dire. À très, très rapidement, Guillaume Ditch, sur cette vague, parce que je reviens quand même à ma question, des sports de combat, des sports violents, des sports où on se cogne dessus. Comment vous jugez cette évolution? Cette demande.
Sur les sports de combat, sur effectivement
le MMA, c'est quand même quelque chose.
Les salles de remise en forme, c'est pas nouveau finalement. C'est en lien avec une culture jeune, puisque au-delà d'une catégorie d'âge, on est aussi à un moment où effectivement il y a des normes, il y a des valeurs qui se transmettent, notamment l'adolescence. Là, se développe le MMA, mais finalement davantage par la médiatisation. Et on voit bien que
le MMA, c'est un sport de combat, peut-être, je le rappelle, où il y a beaucoup moins de règles. Enfin, c'est un mélange de différents sports de combat, et donc on peut se donner des coups très très variés. C'est ce que j'ai compris.
Tout à fait. Et au-delà de la question de la force de l'opposition, même s'il est vrai que ça témoigne aussi d'une chose, c'est peut-être un retour à ce qui a fondé historiquement aussi le sport, des valeurs un peu masculinistes, tout de même, sur la performance, l'opposition et ici le combat. Mais là, en tout cas sur cet exemple de la MMA ou encore les salles de remise en forme, ça témoigne clairement d'une culture jeune, de jeunes qui, effectivement, par les réseaux sociaux notamment, partagent des vidéos courtes. Et là aussi, ça montre aussi qu'on est face à des jeunes qui sont empreints d'une société de l'immédiateté, qui sont plutôt maintenant aujourd'hui motivés par ce sport spectacle médiatisé et moins peut-être par rapport à d'autres formes d'engagement.
Ce qui va peut-être questionner l'évolution des Jeux Olympiques et du spectacle qu'offrent ces grandes journées de compétition. Est-ce qu'il peut être assez rapide pour l'époque ? Ça fait partie des questions qu'ils ont soulevées dans une exposition formidable. Il y a beaucoup, beaucoup d'expositions qui sont proposées pour les Olympiades culturelles organisées à l'occasion des Jeux et portées aussi par Tony Estanguet. Il y a une proposition au Louvre, au Musée d'Orsay. En fait, il y en a des centaines dans toute la France. Moi, j'ai choisi l'exposition Olympisme, une histoire du monde au Palais de la Porte Dorée. Elle se déroule jusqu'au 8 septembre. Elle est formidable. Tous les gens qui l'ont vu, pas seulement moi, le disent, et aussi des scolaires et des professeurs. Écoutez sa co-commissaire, Elisabeth Jolis-Schimmels.
On a eu des très très bons retours, on a eu un vernissage aussi spécifique pour le public enseignant et éducatif en général, qui a un grand succès. Les créneaux de visite sont pleins, quasiment, pas encore tout à fait, mais il y a vraiment, enfin, on voit que ça rejoint aussi une manière de parler des Jeux Olympiques, sans doute qui était une attente pour les pédagogues de pouvoir... Voilà, on parlait autrement que par les valeurs du sport, par la charte olympique, les valeurs olympiques, mais de pouvoir l'historiciser et puis le connecter à des enjeux contemporains. Donc on est très satisfait des retours. Il y a un gros travail de ressources pédagogiques hein, qui est mis en place toujours au Musée national d'histoire et migration et au Palais de la Porte Dorée. On voit que les jeunes sont pas les publics naturels de l'olympisme en réalité. Nous, on a l'impression, moi je sais que j'ai grandi avec les Jeux de Barcelone, d'Atlanta. On a l'impression que voilà, il y a d'autres types de compétitions sportives qui peuvent prendre le pas maintenant en termes de visibilité chez les jeunes, et finalement de voir les stratégies qui sont mises en œuvre avec les nouvelles disciplines, le skate, le breaking, on voit qu'il y a voilà, c'est aussi une manière de capter leur attention et finalement d'entendre leur perception des jeux aujourd'hui éclairée par l'histoire telle qu'ils peuvent l'avoir dans l'expo. C'est vraiment, enfin, c'est passionnant. Et ça ouvre justement, ça c'est un peu le clin d'œil de fin d'exposition sur que seront les jeux en 2040. Qu'est-ce qui va évoluer nécessairement, parce que ça a toujours évolué dans l'histoire de l'olympisme. Voilà, est-ce que ce sera lié à des disciplines, à des représentations? Peut-être les délégations ne seront plus que des pays. Ça peut être des questions intergénérationnelles, des questions de genre. Enfin, on a hâte finalement de voir comment vont se réinventer les Jeux olympiques sous l'impulsion des jeunes notamment. On savait qu'on avait un contenu très exigeant, parce que c'est 130 ans d'histoire mondiale, c'est une géographie internationale, c'est en plus ça croise des grands événements, donc il faut vraiment comprendre les expositions universelles, les guerres, la guerre froide, les décolonisations, enfin c'est très conséquent, plus l'histoire sportive et le rôle des Jeux Olympiques là-dedans. Il y avait un contenu exigeant, donc on a pris soin vraiment de faire des choix, de mettre en exergue des points. C'est pas une expo exhaustive, c'est une expo dense, mais qui fait des vrais choix, et on peut aussi y piocher ce qui nous intéresse, et l'aspect visuel était très important. C'est-à-dire que beaucoup des choix ont été conditionnés aussi par les œuvres, les objets qu'on pouvait présenter, et par l'iconographie qu'on pouvait trouver. Il y a eu vraiment un très très gros travail et travail précis sur l'iconographie. Voir les visages, voir les lieux, voir parfois les gestes, quand on peut montrer aussi en images animées. C'était très important pour capter en fait l'attention et puis signaler dans l'espace aussi les points d'intérêt. Et forcément, ces grandes images sportives, ces grands gestes, c'est eux qui scandent en fait le récit de l'exposition plus que les faits historiques proprement dit.
Mais comment vous expliqueriez la dimension culturelle du fait olympique ?
À mon sens, les Jeux Olympiques, c'est vraiment des espaces-temps de visibilité internationale où les yeux se braquent sur une compétition, mais surtout une ville, un pays d'accueil. Et évidemment, après, quand les compétitions démarrent, les exploits, les records. Mais en préparation, et on le voit bien dans les JO de Paris, c'est quand même... c'est une société qui accueille en fait les Jeux. Donc comment on montre cette société aux autres, à la scène internationale, c'est central dans les Jeux Olympiques. On voit dans l'exposition, il y a plusieurs fois, et notamment à Rome, à Tokyo ou à Munich, c'était des entreprises aussi de restauration d'une image ternie par la Seconde Guerre mondiale. Le graphisme, on a fait une part importante à Munich au projet graphique, il a vraiment un sens de réhabilitation. C'est les Jeux de la joie qui doivent faire oublier les Jeux de Berlin. Donc dans les codes couleurs, il y a aucune des couleurs du drapeau nazi, il y a le premier objet mascotte et toute une campagne d'affichage, il y a énormément d'affiches différentes, déjà à Mexico un peu, mais là c'est vraiment un projet politique par un biais culturel, par le graphisme. Donc ça, il y a plusieurs moments où on le montre dans l'expo. C'est aussi, bien sûr, 80-84, les deux jeux qui se répondent de chaque bloc. La propagande visuelle, on a aussi tous les appels au boycott, mais simplement les produits dérivés, les cérémonies d'ouverture et de clôture, on en a plusieurs dans l'exposition. Elles disent toutes quelque chose. Il y a des projets, enfin, c'est vraiment de la diplomatie culturelle, c'est du soft power à 100% les Jeux Olympiques.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Et on vient d'écouter Elisabeth Jolis-Schimmels, conservatrice en chef du patrimoine, chef du service des collections du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui propose donc l'exposition Olympisme, une histoire du monde. On peut la voir à partir de 8 ans. Il y a un livre publié dans la collection Quelle histoire, avec 30 dates, des dessins, des anecdotes, qui conviendra très bien aux enfants. Et je signale une autre parution, parce que le livre m'a énormément plu, le feuilleton des Jeux d'Olympie. 14 épisodes signés Muriel Sack, ce qui a aussi publié le feuilleton d'Ulysse, le feuilleton d'Hermès, que beaucoup d'enfants connaissent. Ce feuilleton est illustré par Olivier Balèze et ça raconte l'histoire de l'olympisme grec avec les yeux d'un juge, d'un arbitre. Donc on n'est pas dans la peau d'un sportif, ce qui est assez pédagogique et en même temps très intéressant pour bien comprendre qui étaient les athlètes. À l'époque, on a parlé de virilisme, évidemment. Tout à fait loin de nous et en même temps très instructif. La belle écriture de Muriel Sack. Alors, je voulais terminer sur l'aspect culturel de l'olympisme, du sport, ce qu'on peut en retirer pour, et bien même si on ne fait pas de sport, finalement, avoir un peu de convivialité. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jacques Sory?
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que pour moi, le projet actuel des Jeux Olympiques, le projet des Jeux Olympiques, c'est plus un projet politique de restauration d'une image d'un pays, comme ça a été très bien dit. Et ce qui me frappe, c'est finalement la différence entre l'analyse que l'on peut porter sur un événement planétaire comme ça, dont on se demande d'ailleurs si ça n'est pas anachronique à l'heure des grands enjeux climatique, à l'heure de la réduction du coût carbone, c'est quelque chose de faramineux aujourd'hui d'organiser les Jeux Olympiques, et les Jeux de Paris vont être un exemple particulier de ces extrémités-là. Et ce qui me frappe, c'est la différence entre cette analyse que l'on peut faire et l'expérience des sportifs qui se préparent aux Jeux, qui eux vivent les Jeux comme un événement auquel ils se préparent depuis longtemps, et comme un événement très qui a énormément de sens pour eux, et dont certains des enjeux qui ont été évoqués leur échappent en partie d'ailleurs, hein, ou pas, mais en tout cas c'est le hiatus entre les deux qui me frappe. Et ce que je trouve aussi dans la médiatisation du sport dans des épreuves comme ceux des Jeux Olympiques, celles des Jeux Olympiques, c'est finalement que l'on ne montre que la performance, l'aboutissement, le spectacle. Or, préparer les Jeux pour les athlètes, c'est 300 jours par an dans la salle d'entraînement, 300 jours par an sur le terrain d'entraînement, etc. Et donc, c'est ce que l'on ne montre pas, et ce qui pourrait être très intéressant d'un point de vue culturel pour les gens qui regardent, pour les jeunes en particulier, qui s'engagent dans des pratiques sportives, c'est de comprendre ce qu'est l'expérience sportive, de l'entraînement, de l'amélioration des performances, des retours de blessures, de l'entraînement progressif, enfin, toutes ces dimensions qui sont finalement cachées dans le spectacle des Jeux.
Et qui sont très éducatives. Mais ça pose une très belle question à la médiatisation du sport, sujet dont je suis loin d'être spécialiste, mais on aurait pu inviter un ou une journaliste sportive. En tout cas, j'essaierai d'en reparler avec eux, car tout ce que vous avez soulevé comme interrogation, Jacques Sory, m'intéresse énormément, tout ce qui a été dit ce soir. Merci beaucoup Anne-Sophie Omassa, merci beaucoup Guillaume Dit. Je rappelle le titre de votre livre, Les jeunes et le sport, penser la société de demain. Anne-Sophie Omassa, la campagne, c'est
Agir pour l'égalité de genre dans les pratiques sportives, mon genre de sport, par le Centre Hubertine Auclair.
Merci beaucoup, merci Avril Ventura, adjointe à la production, Perret Legras, réalisateur, et Ludovic Auger qui était à la prise de son ce soir.